Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons mettre en lumière, comprendre, voir ensemble l'importance de l'Église en tant que chrétien. Nous avons donc divisé le sujet en quatre parties. La première question est de savoir, c'est quoi l'Église ? La deuxième, qui est l'Église ? La troisième, l'Église a un nom ? Et la quatrième partie, où priait-il ? Avant toute chose, rendons gloire à Dieu. Prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pour la première partie de notre sujet, nous allons voir ensemble la signification de l'Église. Question : c'est quoi l'Église ? La traduction du mot Église en grec veut dire Ecclesia. Ecclesia, qui signifie, dans le sens biblique, bien entendu, assemblée de chrétiens. Ayant reçu le corps du Christ. Romains 10, verset 9, nous dit que tous ceux qui ont confessé de leur bouche le Seigneur Jésus et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ceux-là forment l'Église de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes frères, si donc l'Église signifie « Ecclesia », « assemblée de chrétiens », alors la question « c'est quoi l'Église ?» Nous dirons que l'Église est l'assemblée des chrétiens universelle que nous formons vous et moi à travers le monde. Voyons maintenant qui est l'Église. Allons-y à Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Il est écrit « Et moi je te dis que tu es Céphas. » Céphas qui veut dire « pierre ». Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous devons comprendre qu'ici, le Seigneur en disant « Je te dis que tu es Pierre », il s'adresse à Simon, à qui il a donné le prénom de Céphas. Céphas qui signifie un roc solide, traduit en français prénom Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est une parabole. Il parle d'un rocher indestructible. Il est question plus précisément de son corps, dont il fait référence ici. Son corps qui est l'église de sa gloire. Il dit ceci. En toi, Pierre, habitera mon esprit, mon corps qui est l'église. Tu garderas mon troupeau, mes agneaux, mes brebis. Tu seras les prémices de mon église, en référence à la parole du Seigneur adressée à Simon Pierre dans Jean 21, versets 15, 16, 17. C'était la première fois que le mot église fut cité. Et nous lisons par la suite, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire qu'aucune puissance ne pourra la détruire, triompher d'elle, de l'Église qui est son corps, le corps du Seigneur, Jésus-Christ. Colossiens 1, versets 18 et 24. Colossiens 1, versets 18 et 24 nous dit « Il est la tête du corps de l'Église, il qui, Jésus, est la tête du corps de l'Église. » Au verset 24, nous lisons « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors, question, qui est l'Église? Dieu a fait de son Fils, notre Seigneur Jésus, son Église. Le corps du Seigneur Jésus-Christ est l'Église dont il est le chef. Voyons maintenant ensemble la troisième partie de notre étude. La question posée est, l'Église a un nom? Allons-y à 1 Thessaloniciens 1, verset 1. 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Ici est donnée une précision. Il est dit, à l'Église de Thessaloniciens, à l'Église de Thessaloniciens. Là est la première révélation. C'est ainsi que sont appelés les croyants qui forment l'Église de Christ, qui habitent un lieu ou un endroit. Ils sont appelés par le nom de leur ville, leur quartier, leur pays. Si ces croyants sont par exemple à New York, Paul dirait à l'Église de New York, de Paris, etc. Car l'Église est le corps du Christ et non un bâtiment. Et avec un nom commercial en plus pour certains temples. Nous avons répondu à la question « Qui est l'Église ?» sur la partie 2 de notre étude. Nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ est l'Église. Par conséquent, si le corps du Christ est l'Église, donc l'Église n'est point visible. L'Église ne peut pas se voir, mes frères. Alors le peu d'églises qui sont au service de Dieu le Père devraient normalement porter le nom de temple. Sur 100, je dirais qu'il n'y a que 20% qui sont serviteurs du Père des Lumières, le Dieu Créateur. Toutes les églises étaient appelées par le nom de leur ville, ou le nom du disciple, où ils se réunissaient tous pour célébrer Dieu, comme nous allons le voir tout au long de cette étude. Car l'Église n'a pas de nom. C'est pour cela que Paul dit à l'Église de Thessaloniciens, et non par exemple à l'Église de Trinité, de Pierre de Feu, de l'Onction, etc. Comme nous le voyons malheureusement partout dans le monde, des temples appelés Église avec des noms commerciaux, car l'Église n'a pas de nom propre, commercial. Mais on appelle les frères et les sœurs qui vivent dans un lieu l'Église du nom, de la ville, du lieu, du pays, du quartier, où vivent ces chrétiens. Exemple, s'ils vivent à Pékin, on dirait l'Église de Pékin. Si ces croyants sont dans un quartier de Rio, on les appellerait par le nom de leur quartier. Par exemple, l'église du 2 rue de la plage de Rio. Et s'ils vivent par exemple au 7 rue de Paris, ils s'appelleraient l'église du 7 rue de Paris à Paris. Et c'est ainsi que le fonctionnement de l'église primitive a été établi. Et nous allons voir et comprendre sur la partie 4 de notre étude pourquoi ils n'avaient pas donné de nom aux églises. Car il y a un lien avec l'endroit où ils priaient. Et poursuivons sur le volet 3. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous voyons ce que fit Pierre à Simon le magicien lorsqu'il voulut acheter les dons du Saint-Esprit avec de l'argent. Allons-y à Actes 8, versets 18 à 24. Actes 8, versets 18 à 24. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Bien-aimé, vous voyez bien ce que Pierre dit à Simon le magicien. Il lui dit: « Prie le Seigneur afin que ta pensée te soit pardonnée, s'il est possible. » Il précise bien « s'il est possible ». Vous comprenez bien que toute action en rapport avec Dieu qui est vendue est condamnable. J'ai dit bien toute chose selon Dieu que tu vends, te condamne d'office. Cela veut dire que tu n'as point de part avec Dieu. Donc frère, faites attention à ce que vous faites, afin de ne pas être sur le joug de la condamnation, c'est-à-dire le joug des ténèbres, mais plutôt que vous soyez sous le joug de la lumière, c'est-à-dire le joug de Christ. Tout ce qui porte un nom commercial, c'est-à-dire qui a un caractère de commerce, n'a point de part avec Dieu, le Père. Car il y a la notion de vente, de commerce, et Dieu ne peut être vendu. Alors la question, l'Église a un nom? La réponse est non. Sur la quatrième partie de notre étude, nous nous sommes posé la question de savoir où priaient les apôtres et les disciples, tous les saints de l'Église du Seigneur. Prenons quelques versets. Acte 12, verset 12. Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ici, il est question de Pierre, quand il fut délivré de prison par l'ange de Dieu. Poursuivons à Philémon 1, verset 2. Philémon 1, verset 2. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Par la suite, allons-y à 1 Corinthiens 11, verset 21-22. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21-22. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Ici, Paul rappelle à l'ordre l'Église qui était à Corinthe, où régnait le trouble et le chaos. Ce verset, mes frères, comme les autres, démontre qu'ils priaient dans des maisons essentiellement. Ici aussi est donnée une précision. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, mes frères? Il est dit: n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Pourquoi Paul dit ces choses? Parce que la maison où se réunissait l'Église était le lieu de culte. Elle se comportait de manière indigne. Poursuivons à Romains 16, versets 3, 4, 5, 10, 11, 15 et 16. Romains chapitre 16, versets 3, 4, 5, 10, 11, 15 et 16. Regardons les salutations de Paul et ses compagnons, adressées aux églises des saints en Jésus-Christ. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristoboule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Là encore, Ces quelques versets font référence aux églises, c'est-à-dire aux frères et aux sœurs, et montrent que le culte se faisait dans leur maison. Pour la suite, nous allons à Actes, chapitre 2, verset 46. Actes, chapitre 2, verset 46. Nous lisons, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Beaucoup prendraient ce verset en exemple, afin de justifier ces lieux qu'ils appellent église,
ce qui sont des lieux impurs, où sont assis des démons.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ce verset fait référence à la maison de l'Éternel, où se réunissait l'Église, c'est-à-dire les frères et les sœurs, afin d'y être enseignés. C'est le seul temple officiel construit par le roi Salomon pour Dieu. De sa vie terrestre, le Christ, notre Seigneur, y enseignait également. Alors, pour répondre à la question qui nous est posée, où priait l'Église du Seigneur? Nous voyons qu'il priait essentiellement dans les maisons. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères, que l'Église n'avait pas de nom au commencement. Car c'était chez eux qu'ils priaient. Où ils allaient prier? Chez celui qui pouvait recevoir l'assemblée de Dieu chez lui. Comprendre, mes frères. Comprendre. Réflexion. Nous allons à Actes, chapitre 8, versets 1 et 3. Actes 8, versets 1 et 3. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Question. Pouvons-nous persécuter des murs? Non, bien sûr. Mais les personnes, oui. Pour ceux qui pensent que l'Église, c'est des bâtiments. Des pierres mortes. Donc l'Église ici, qui était persécutée, c'était les frères, des sœurs et des enfants, et non des bâtiments. Au verset 3, nous lisons « Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. » Vous avez une autre indication ici. « Pénétrant dans les maisons. »« Pénétrant dans les maisons, mes frères. » Cette parole atteste qu'il priait où? Dans les maisons. Il qui? L'église. L'église qui désigne qui ici? Les frères et les sœurs. Priait où? Dans les maisons. Nous lisons par la suite sur le même verset, « Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il qui, seul. » Ici est une autre révélation qui atteste que l'Église c'est toi, l'Église c'est moi, et non un bâtiment. Voici encore pour les incrédules qui pensent que l'Église est un bâtiment, et aussi pour tous ceux qui pervertissent les voies de Dieu. Si vous remplacez « Il en arrachait hommes et femmes » il les faisait jeter en prison par « Il en arrachait des bâtiments, des murs, et les faisait jeter en prison. » Vous voyez que cela n'a aucune cohérence, sauf si vous avez perdu la raison. Pour tous ceux qui vous diront dans leur folie que l'église, ce sont des bâtiments, des pierres mortes, peut-on jeter des pierres en prison? Nous allons à Actes, verset 31. Actes, chapitre 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous lisons, l'église était en paix dans toute la Judée. L'église était en paix dans toute la Judée. Un mur ne peut pas être en paix. Il y a encore question ici de personnes. Un mur peut-il s'édifier? Il est question d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'édifiaient, qui veut dire qui étaient enseignés. On ne peut pas enseigner à des murs. Voici là encore la démonstration de l'esprit, la puissance de la vérité. Car l'esprit de Dieu n'est point un esprit de mensonge. Pour tous ceux qui pensent que l'Église, c'est un bâtiment. Par la suite, sur le même verset, nous lisons « Marchant dans la crainte du Seigneur ». Un mur peut-il marcher? Et nous lisons, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle, ici, désigne encore l'Église, des personnes. Et ces personnes, entre parenthèses, l'Église, faisaient quoi? S'accroissaient, qui veut dire augmenter en nombre. Comprendre, mes frères, comprendre. Beaucoup appellent l'Église des temples. Christ est vivant. Il est l'Église de sa gloire. Pourquoi appelez-vous alors Église des temples? Pourquoi? N'est-il pas écrit que Dieu a tout mis sous ses pieds? Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors pensez-vous que son corps peut être divisé? Le corps du Seigneur, la tête aux États-Unis, le pied gauche en Chine, le pied droit au Brésil. Comme beaucoup appellent des temples églises, alors que le corps du Seigneur est l'église de sa gloire, et notre corps est le temple de Dieu, notre Père, par la grâce du Seigneur que chacun a reçue. Si toutefois l'Esprit de vérité est en toi, alors ton corps est le temple de Dieu. Ceux, par leurs pensées corrompues, qui trompent en retenant prisonniers les choisis de Dieu, rendent à vous. Hommes pleins de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserez-vous point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ils ont construit des temples plus grands, démesurés, luxueux, avec des signes et des formes impures, cherchant à montrer qui a la plus grande maison, tout dans le paraître. Ces maisons où habite le passage de la perdition. Le passage de la perdition. Tout dans le paraître, pour avoir la gloire des hommes, tels les fils de Babylone, afin de tromper, attirer et garder prisonniers les frères, rentrent à vous. Ils ont construit des temples qu'ils appellent églises. Avez-vous siégé au conseil de Dieu? Le Seigneur Tout-Puissant vous a-t-il donné son accord? Car la seule autorisation que Dieu a donnée, c'est bien la construction de son temple, qui a été fait par le roi Salomon, fils du roi David. Et il dit ceci, 2 Samuel chapitre 7, versets 5 à 7. 2 Samuel 7, versets 5 à 7. Dieu dit, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelques-unes des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Le Seigneur Tout-Puissant dit bien, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Et vous, pourquoi avez-vous bâti ces maisons? N'est-il pas vivant? Actes chapitre 7. Versets 48 à 51. Actes, chapitre 7, versets 48 à 51. Dieu dit, il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas mes mains qui ont fait toutes ces choses? Homme au cou raide, circoncis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ouvrez vos esprits, frères. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas mes mains qui ont fait toutes ces choses? homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Reprend ici Étienne, animé par l'Esprit, peu de temps avant sa mort. Frères, sœurs, ne serons pas des rebelles, des enfants au cou raide. Oui, des enfants rebelles, au cou raide, au cœur de pierre, comme l'étaient nos pères.
Ces églises de pierre sont mortes. Elles marchent dans un culte de mort. C'est une offrande aux idoles, mes frères. Il n'y a rien de pur en eux, dans ces lieux de séduction, où sont assis des démons. Le culte est impur. Et je vous le dis encore, votre offrande est impure. Car le mal n'a pas sa demeure auprès du Seigneur.
Beaucoup cherchent un temple. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Enfin, si Dieu vit en vous, alors vous êtes vivant. Vous êtes l'Église du Seigneur et non une soi-disant Église en bâtiment. Et pourtant, frère, cela fait plusieurs années que tu pries dans ce tombeau. Oui, ça fait longtemps que tu pries dans ce tombeau, mais tu n'avances point dans ta foi. Car nous sommes sauvés par la foi et la grâce en notre Seigneur Jésus, et non par les œuvres. Et ce sont les œuvres de notre foi et non les œuvres de la chair qui nous sauvent. Car une foi sans les œuvres est une foi morte. Mais toi, quelles sont tes œuvres dans ta foi? Tu les vois quand ils sortent de ces endroits, et même en plein culte, ces lieux qui sont censés être des lieux saints. Te voici en train d'insulter, critiquer, juger, envier, plein de colère, de comparer aux autres. Tu es toujours dans l'orgueil, et le doute est présent dans ta chair, dans ta vie. Tu as des envies de richesse, terrestres, de tromperie. Regardez des images, des films impurs, etc. Pourquoi avez-vous besoin de voir pour croire, alors que vous devez croire pour marcher dans l'espérance de Christ? Comme pour certains, croire c'est voir, et d'autres voir c'est croire. Puisque tu dois voir pour croire, au lieu de croire pour voir, crois à ce que tu lis. Crois à ce que tu lis alors. À ceux qui ont la foi du nourrisson, je parle. Donnez-moi un peu de folie, que je parle et résonne dans ma chair. Si tu pries dans un lieu et tu ne changes pas, ne penses-tu pas que tu n'es pas au bon endroit? Tu te demandes pourquoi ma vie est-elle comme ça? Je n'ai pas de chance. Frère, pose-toi un instant et fais un examen de ta vie. Je dirais plutôt de ta foi. Demande-toi que dirait le Seigneur, puisque tu dois marcher à sa ressemblance. Parce que tu ne peux pas être un jour chrétien et le lendemain du monde. Tu ne peux pas dire « je vais d'abord danser en boîte de nuit et demain je vais prier ». Tu ne peux pas dire que je vais acheter le dernier sac à la mode pour être bien vu des autres. Tu ne peux pas chercher le mari de l'autre ou la femme d'autrui. Tu ne peux pas haïr ton frère à cause des choses de ce monde. L'ami, le frère, la sœur, le père, la mère, le grand-père et la grand-mère qui tuent ne peuvent pas penser le faire sans recevoir leur salaire. Tu ne peux pas être dans les sectes, dans les loges, adorer les démons et dire que tu sers Dieu. Tu ne peux pas être dans les coutumes et leurs pratiques et prier Dieu en même temps. Tu ne peux pas avoir de la compassion et être moqueur en même temps. Tu ne peux pas marcher avec les gentils et te dire que tu es de Dieu. Tu dois te donner entièrement et marcher selon les pas du Seigneur. Sinon, ça ne marchera jamais. Réfléchis un instant.
puisque tu dois être à l'image de Dieu. Est-ce que tu fais les bons choix? Es-tu au bon endroit? Comme dit le prophète Jacques, tu cherches, mais tu cherches mal, et tu ne trouves pas le chemin étroit qui conduit au Père. Tu demandes, mais tu demandes mal, et tu ne reçois pas. Tu frappes, mais la porte où tu frappes est celle qui te conduit à la mort. Sortez de ces tombeaux de séduction. Sortez de ces églises de pierre, je vous le dis. Ce sont des lieux de mort. Beaucoup savent qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils se laissent séduire et convaincre. Leur cœur est dans les chemins de la vanité. Plusieurs se sont laissés ainsi séduire par quelques profits. Du matériel. Ainsi Christ est devenu un commerce. Ils ont vendu leur foi pour de l'argent et du profit de la chair qui disparaît. Comme toutes ces églises qui disparaîtront. Ou encore d'autres qui suivent, parce que c'est tel pasteur, homme et femme en plus. Abomination. Et ils disent, ma tante, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, va dans cette église. Alors, j'y vais moi aussi. Je vais vous dire, si vous parlez et raisonnez en vous-même de cette manière, cela ne vient point de Dieu, mais du mercenaire. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Nous voyons des hommes être appelés papa, père. Quelle est votre pensée? Vous qui vous faites appeler ainsi, votre cœur est-il juste? Ou est-ce pour asseoir votre domination? Celui qui se dit père ne peut pas vivre dans le mensonge, sinon il est du diable, car le diable ment dès le commencement. Celui qui est père prend soin de ses enfants. Il ne peut pas célébrer Baal la nuit et le jour, avoir l'apparence de piété. Aller avec des enfants, des hommes et des hommes, avoir plusieurs femmes et célébrer Dieu le jour. Il ne peut pas vous laisser célébrer les fêtes terrestres, qui sont associés à d'autres dieux, donc des démons, et être de Dieu. Alors que ces fêtes sont toutes une abomination aux yeux de Dieu. Et vous le laissez demeurer dans les chemins du péché, car beaucoup se font appeler pères. Ils vous gardent prisonniers, esclaves des chaînes. Matthieu 23, versets 8 à 13. Matthieu 23, versets 8 à 13. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Nous voyons les fidèles de ces lieux qui se prosternent devant ces hommes. Nous avons plusieurs chapitres en exemple, mais arrêtons-nous un instant sur celui-ci. Acte 10, chapitre 25-26. Acte 10, chapitre 25-26. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Alors, pourquoi vous, bergers, pasteurs, gardiens de l'église, demandez à vos fidèles de se prosterner à vos pieds? La royauté et la majesté éternelle appartiennent à Dieu et au Seigneur. Mais toi, et pourtant tu n'es qu'un homme. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. L'Éternel arrachera la tête et la queue. Elles seront détruites. Ce qui conduit ce peuple l'égare, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ils sont tous des impies et des méchants. Ils seront détruits. J'ai vu mes frères des églises de pierre être détruites. Toutes ces maisons de pierre, ces temples, seront tous détruits. La plupart de ces lieux sont des voyages pour la mort, des passages de la perdition, des passages de la perdition. Il y avait un grand tremblement de terre, toutes les maisons tombaient en ruine, chacun essayait de fuir, mais ils étaient tous comme avalés par la terre. Il ne restait plus rien. Oui, mes frères, il ne restait plus rien du tout. C'était horrible. Il y avait du sang partout, des cadavres. Tous les corps étaient sans vie. Il ne restait plus rien du tout. Comme un tsunami qui a tout emporté après son passage. On aurait dit la fin du monde. Il y avait des cris, des pleurs. Des gens tombaient par milliers. Et les murs de ces maisons aussi avec eux. Ce monde disparaîtra. Ce monde disparaîtra. Et la douleur est grande à la face de Dieu. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Frères, vous qui êtes dans ces lieux de mort, prenez garde à vous, et vous aussi qui marchez dans les voies de la condamnation. Car voici, le jugement de Dieu est proche. Je vous dis ces choses, et cela est salutaire pour vous. Frères, je n'ai aucune gloire à tirer de vous. Ma gloire est votre joie. Ma gloire est votre salut. Je ne suis point ami des hommes, car je suis serviteur de Jésus-Christ. Si j'étais ami du monde, je ne serais point serviteur de Dieu. Voici, car le monde est l'ennemi de Dieu. Tout ce qui est en nombre n'est pas vérité. Le culte du nombre n'est pas vérité. Comprendre celui qui pourra comprendre. Puisse le Dieu de lumière et de toute gloire guider vos cœurs, afin que vous marchiez dans les sentiers éternels. Par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.